Cet indicatif annonce l'arrivée en studio de Raphaël Jacob, notre spécialiste aux affaires américaines. Raphaël, salut.
Salut, Pat.
Donc, écoute, je sais que chaque journée bat la journée précédente en termes de pitrerie de la part du président Trump, et on devient peut-être un peu insensible, mais aujourd'hui, c'était particulier, là.
C'était quelque chose. Sur un dossier qui est extrêmement chaud, c'est que c'était pas une niaiserie sur une niaiserie. T'sais, on s'est parlé de l'histoire du Danemark, l'histoire de la Suède.
Une chicane avec un pays là, qui a aucun poids mondial.
Exact, oui, totalement banal et inusité. Là, on est loin de ça. On parle du conflit commercial avec la Chine qui s'étire, on le rappelle, depuis plus d'un an maintenant. Les Chinois qui ont annoncé formellement ce matin qu'ils allaient imposer des tarifs de 10 % sur quelques 75 milliards de dollars en valeur en produits américains, ça serait fait essentiellement en deux vagues. Une première en septembre, une deuxième en décembre. Ça vient répliquer à ce que l'administration Trump avait annoncé un petit peu plus tôt cet été, c'est-à-dire de nouveaux tarifs douaniers sur les seuls produits chinois qui n'avaient pas déjà été ciblés par des tarifs américains. Donc, la Chine annonce ça ce matin. Donald Trump réagit et je te cite le président des États-Unis. Il dit « Par la présente, j'ordonne aux entreprises américaines de commencer à trouver des endroits autres que la Chine pour produire leurs produits, pour manufacturer leurs produits. » C'est hallucinant, là. On a le président d'une démocratie qui parle de l'économie privée en disant « je vous ordonne de faire ça ». Ça, en soi, c'était quelque chose.
Tu sais, on peut s'obstiner, puis on en a parlé, peut débattre du fait que, bon, est-ce que les pays occidentaux devraient faire affaire comme on le fait avec la Chine, qui a donné aucune garantie démocratique en retour. Mais dans une économie libre comme ça, et les Américains nous parlent toujours de libre entreprise. Le président des États-Unis ne peut pas dire « Hey, toi, puis toi, puis toi, vous faites pas affaire dans tel pays. »
Exact. Il y a ça. Donc, c'est une coupure avec les principes démocratiques.
En fait, il peut le faire, Raph, comme dans le cas de l'Iran. Mais ça prend, il y a un processus pour faire des embargos, etc.
Exactement.
Ça ne se règle pas par un tweet.
Exactement. C'est pour ça que j'allais dire s'il y a une coupure avec un principe démocratique qui est assez évident. Mais si on ratisse plus large que ça, il y a un principe idéologique conservateur qu'un républicain, qu'un président républicain, normalement, ne violerait pas, c'est-à-dire intervenir de façon aussi agressive, justement, dans ce qui devrait être le libre-marché.
C'est drôle parce que tu as toute une frange des politiciens de droite aux États-Unis et ailleurs qui sont toujours en train de brandir l'épouvantail du communisme.
Ouais.
Et là, un pays communiste pourrait faire ça, dire à ses entreprises, vous ne faites plus affaire là-bas.
Et d'ailleurs, Donald Trump est allé dire plus tôt cet été qu'il enviait le président chinois parce que lui contrôlait sa réserve fédérale, si on veut. Fait que c'est ça qui est absolument abracadabra. Et parlant de la réserve fédérale, ça me permet de faire le lien avec le deuxième thème là, sous toute l'espèce de querelle chinoise. Le président de la Fed, Jerome Powell, critique l'administration Trump.
Qui est la banque centrale.
Qui est la banque centrale, essentiellement, aux États-Unis, depuis quelque temps par rapport à sa politique commerciale, justement, disant que c'est en train d'affaiblir l'économie américaine et l'économie mondiale également. Donald Trump a répliqué au président de la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Et je te cite encore une fois le président des États-Unis. Donc, tu parlais de la citation de la semaine, là. Écoute bien ceci. Qui est notre vrai ennemi? Jay Powell ou le président Xi? Point d'interrogation, fin du tweet.
Donc, un Américain avec lequel je n'y ai pas d'accord ou un Chinois?
Écoute, pas juste un Américain. Le président de la réserve fédérale américaine.
Puis, tu sais, juste pour donner un peu de contexte, la tradition là, d'un pays libre, c'est que les banques centrales sont autonomes.
Exact.
Oui, parfait, le politique va nommer le gouverneur, la gouverneure, mais la banque centrale ne va pas prendre des décisions qui vont aider ou nuire dans la politique partisane.
Et c'est là que c'est important ce que tu dis, parce que Donald Trump, juste en se mêlant des affaires de la Fed, fait quelque chose qui est extraordinaire en soi, qu'aucun de ses prédécesseurs dans l'ère moderne a fait, c'est-à-dire s'ingérer dans la politique monétaire de la Fed. Ça, c'est pas normal en soi. Donc, il y a déjà ça, mais aujourd'hui, il est allé monter les enchères de façon absolument incroyable en allant insinuer que le président de la Fed, non seulement ne prenait pas des bonnes décisions, mais était un ennemi envers les États-Unis.
Mais tu sais, on a dit de Bush, mais en fait, Bush avait dit, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Mais Bush, même s'il regarde, c'était pas un saint, il était capable de faire des compromis et il y a des trucs qu'il ne faisait pas, comme par exemple, ce genre d'ingérence-là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment Trump. C'est dans tous les aspects de sa vie politique, personnelle. T'es pas avec moi, t'es contre moi.
Oui, et où c'est troublant, potentiellement, et c'est drôle parce que Pierre-Yves McSween en parlait il y a quelques semaines de cela à notre micro, c'est que la Fed a déjà baissé ses taux d'intérêt. Et il y en a plusieurs, même sans avoir une preuve là, absolument clairs qui se disent que si cette décision a été prise, elle a été prise pour faire plaisir à Donald Trump, qui se plaignait depuis des mois que la Fed ne garde pas les taux d'intérêt suffisamment bas. Tu ne peux pas avoir une réserve fédérale qui prend des décisions en fonction du politique, que ce soit Trump, Obama ou n'importe quel président qui va leur succéder.
Et parlant de M. Trump, ben, le premier ministre Justin Trudeau va rencontrer M. Trump en marge du G7.
Oui, et ça, ça nous permet de faire un lien avec ce dont on se parlait hier. M. Trudeau s'était entretenu hier à Ottawa avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et il avait été question d'abord et avant tout de la Chine. Donc, on peut miser assez fort sur le fait que demain, il va être question entre les deux hommes de la Chine également, non seulement à cause de tout l'aspect commercial, mais à cause de ce dont on se parlait hier, c'est-à-dire le fameux dossier Huawei. À quel point est-ce que l'administration Trump peut aider le gouvernement canadien à faire libérer les deux ressortissants canadiens qui sont emprisonnés? Je vais redire ce que j'ai dit hier de façon illégitime et illégale par la dictature chinoise, aussi, il faut le redire. Il faudra voir, mais certainement, ça va être sur toutes les lèvres. Et un sujet dont on parle beaucoup moins, et c'est remarquable qu'on en parle aussi peu présentement dans un contexte où on s'en va en campagne électorale au Canada, l'ALENA, Pat. C'était le sujet numéro un de la politique étrangère canadienne pendant le premier mandat Trudeau.
On l'a renégocié, là, parce que Trump voulait le renégocier.
Oui, et on l'a signé.
OK, donc?
Donc, c'est pas ratifié. Ça va faire un an. Hein? Ça va faire un an. À l'automne, que cet accord-là...
Je me rappelle de Trump, du président mexicain, de Trudeau qui signe ça là, dans une cérémonie.
Mais malheureusement, pour les partisans du nouvel accord, ce n'est pas assez. Il faut que les législatures, donc le Parlement canadien et le Congrès américain ratifient l'accord. Le Congrès mexicain l'a déjà fait, lui, mais c'est aux États-Unis que ça bloque, à la Chambre des représentants, la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, qui refuse bec et ongles la simple tenue d'un vote, parce que ce dont on parle à Washington beaucoup, c'est que les votes sont là pour que ça passe, mais Pelosi ne veut pas que ça passe, parce qu'elle ne veut pas donner une victoire politique à Trump avant la campagne de 2020.
Donc
ça reste bloqué.
Si je te comprends bien, l'ancienne ALENA a encore force de loi.
Absolument. Et même plus que ça. Même plus que ça, on pourrait se rendre à la fin du mandat, premier mandat Trudeau et à la fin du premier mandat Trump avec l'ALENA 1.0 encore en vigueur, alors que c'était l'enjeu numéro un, le renégocier, le remplacer ou peut-être même le détruire. C'est assez remarquable.
OK, tu veux nous mettre en garde contre certaines choses qui pourraient se passer si on va sur le lac Champlain?
Es-tu déjà allé au lac Champlain?
Ben, écoute, oui, et c'est un lac là, qui chevauche le Québec et les États-Unis.
Et plusieurs États. En fait, au moins le Vermont et l'État de New York. Et tu as eu une Américaine, justement, de l'État de New York qui est allée à la pêche dernièrement dans le lac Champlain et elle a fait une découverte absolument incroyable. Un poisson à deux bouches. Et si tu penses que c'est une fausse nouvelle du type le journal de Montréal, là, c'est une vraie nouvelle. J'ai vu la photo moi-même. Ne vient pas d'un site parodique. C'est absolument stupéfiant. La rumeur veut que ça soit peut-être en référence ou lié au monstre Champ. Ça serait l'équivalent américain du monstre du Loch Ness.
Oui, mais ça, c'est une fausse nouvelle. Ça n'existe pas.
Écoute, si tu savais comment j'ai le goût de te faire des blagues inappropriées sur un poisson à deux bouches.
Mais tu vas t'en retenir, parce qu'on est des gens sérieux.
Exactement.
Merci, Raphaël Jacob. Et moi, je me souviens de Donald Trump qui disait que les guerres commerciales, c'est facile à gagner. Oui, c'est facile à gagner contre des pays plus petits.